Dans cette série « Découvrir Jésus », le 10e message « Découvrir Jésus » dans l'Évangile de Jean, nous allons conclure la série avec un message. Notre message ce matin, le thème, c'est va être « Les vrais adorateurs ». On va aller à une conversation de Jésus avec la femme samaritaine dans Jean chapitre 4 qu'on a commencé dimanche dernier. Mais les vrais adorateurs, l'intention divine de cet Évangile de Jean pour des multitudes jusqu'au retour de Jésus, jusqu'à nous et jusqu'au retour de Jésus, elle est résumée, elle est capsulée dans les versets 30 et 31 du 20e chapitre de Jean, où Jean dit lui-même, voici l'intention divine. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. L'Évangile de Jean repose sur ces deux vérités immuables, inaltérables, puissamment actuelles. Au 21e siècle, Jésus fait encore beaucoup de miracles qui ne sont pas racontés ou même reconnus dans les médias ou dans les journaux ou dans les médias sociaux ou en ligne. Mais combien savent, parce que tu l'as vécu, que Jésus fait encore beaucoup de miracles? Veux-vous acclamer le Seigneur? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dites à quelqu'un près de vous, je sais qu'il fait des miracles, j'en suis un. Dites ça à quelqu'un près de vous. Deux vérités fondamentales, Jésus fait encore des miracles. Et la deuxième, c'est qu'il est le seul, l'unique Fils de Dieu. Il est le Christ qui donne la vie abondante et éternelle. La vie abondante sur terre, la vie éternelle dans l'après-vie, pour les vrais adorateurs qui croient en son nom. Pourquoi spécifier les vrais adorateurs? Parce que la Bible entière nous avertit qu'il y aura des vrais et des faux adorateurs qui diront croire en son nom. Il y a un enseignement qui est clair, qui est limpide, qui est sans équivoque, sans ambiguïté, de la première à la dernière page de la Bible, qui est la révélation inspirée de Dieu pour l'humanité, nous avertissant et nous réveillant spirituellement à la réalité qu'il y aura, et de manière exponentielle dans les temps de la fin selon les Écritures, qu'il y aura des vrais et des faux adorateurs de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. La parole est abondante à travers les prophètes, dans l'enseignement de Jésus lui-même, dans les épîtres pastoraux inspirés par l'Esprit pour les églises, et jusqu'à l'Apocalypse, jusqu'à la fin, le livre de la révélation ultime de Jésus-Christ, il y a cet avertissement. Je vous lis, on le voit partout dans les prophètes. Je vais vous citer simplement certains passages où Dieu parle d'une manière tellement directe, cœur à cœur. Dieu, dans Ésaïe chapitre 1, parle aux gens les plus religieux que vous pouvez imaginer. Il dit littéralement, Dieu parle et dit, « Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, vos rassemblements, de vos rassemblements? Quand vous venez devant moi, vous souillez mes parvis. Qui vous a demandé, c'est Dieu qui parle ainsi, qui vous a demandé d'apporter des vaines solennités? Quand vous étendez les mains, je détourne les yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas parce que vous m'honorez avec vos lèvres, mais vos cœurs sont loin de moi. Vous n'avez jamais voulu, vous n'avez jamais accepté, Ésaïe 1, d'apprendre la justice, d'apprendre à faire le bien, à rechercher la justice, à protéger, à défendre la veuve, l'opprimé et l'orphelin. En fait, vous êtes de faux adorateurs. Il dira même à travers le même prophète Ésaïe 58, arrêtez les jeûnes, arrêtez ce jeûne que vous faites est un jeûne à lequel je ne prends pas plaisir parce que c'est un jeûne où mon peuple a un doigt accusateur l'un envers l'autre. Vous divisez le peuple, vous méprisez le peuple, vous élevez un contre l'autre et en ce faisant, vous souillez mon nom. Vous êtes de faux adorateurs. Vous avez à travers tous les prophètes, le prophète Malachie termine l'Ancien Testament. Lorsque vous arrivez à la fin de Malachie, vous tournez, Malachie, vous rentrez dans votre Bible, dans la Nouvelle Alliance, dans Matthieu chapitre 1. En fait, il y a 400 ans de silence entre ces deux pages, où le peuple est tellement dans une fausse adoration qu'ils ont fermé le ciel sur eux. Le ciel est silencieux pendant 400 ans. Et Malachie dira littéralement, Dieu dira à travers Malachie 1, « Allez fermer les portes, allez éteindre le feu de mon autel. Je ne prends aucun plaisir. Faux, vous êtes de faux adorateurs. » Écoute-moi bien, ce n'est pas parce qu'il y a du feu qu'il y a sa faveur. Il peut y avoir bien du feu, il peut y avoir beaucoup de feu, beaucoup d'excitation, beaucoup de feu. Mais ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a du feu qu'à sa faveur. Jésus lui-même dira, nous fera trembler nos âmes, il dira lui-même dans Matthieu 7, 21, 22, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, nous avons chassé des démons, nous avons guéri des malades en ton nom, mais je leur dirai, éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu parce que vous pratiquez l'iniquité. » Dans les épîtres, vous êtes de faux adorateurs. Dans les épîtres pastoraux, l'apôtre Paul avertira particulièrement pour nous qui sommes le peuple des temps de la fin, qu'il y aura dans les temps de la fin, des jours difficiles. Il y aura un segment, il y a un portrait sociétaire et après il y a un portrait spirituel où Paul dira, ils auront l'apparence de piété. Mais ils renient ce qui en fait la force. Ils aiment leur plaisir plus que Dieu. Ce sont de faux adorateurs. Le langage dans Jude est tellement puissant où il décrit des chrétiens, des églises, des mouvements qui sont décrits comme des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts et déracinés. Jusqu'à l'Apocalypse, la révélation ultime de Jésus-Christ, où il dira à l'église de Sardes, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivante alors que tu es morte. Il y a donc cet appel, ça fait 9 semaines, c'est la 10e semaine où nous découvrons et où nous développons ensemble quelles sont les marques des vrais adorateurs. Et ce qui est puissant et a besoin d'être rappelé à ton cœur, c'est que ces vrais adorateurs sont ce que Dieu désire, ce qu'il demande. C'est ce qu'il a dit à la Samaritaine. Si vous avez manqué le message de la semaine dernière, allez chercher, il y a une complétude à ces deux parties à ce message. Mais dans Jean chapitre 4, verset 23, « L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Le mot « demande »,« zéthéo » en grec, que le Père requiert, que le Père exige, que le Père désire. Et le mot veut littéralement dire « désire ardemment et urgemment ». Si le ciel s'ouvrait pendant un instant et qu'on pouvait capturer pendant un instant le cœur de Dieu, vous entendriez son cœur battre avec de désir pour de vrais adorateurs. Cette pensée me bouleverse. Elle m'anime et me propulse dans ma marche avec Dieu. Depuis plus de 40 ans que je marche avec Dieu, ça m'habite à chaque jour. Je sais que ce cri dans votre cœur aussi, je veux être un vrai adorateur. Je veux, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut amener du plaisir au cœur de Dieu? Je veux que Dieu prenne plaisir. Je veux être la réponse à sa demande. Je veux être la réponse à son cœur. Si c'est ton désir, veux-tu acclamer avec moi le privilège que nous avons? Jean chapitre 4, verset 24, il dit à la Samaritaine, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Parce que là, c'est quoi la vision de Nouvelle Vie? Elle est multiple. Il y a quelques semaines, je vous partageais, et dans cette dernière année, notre vision, bien sûr, dans la prochaine décennie, de voir 10, 12, 15, 20 églises multipliantes, d'avoir 10 000 chrétiens réunis les dimanches dans des sites, des centaines de milliers qui sont en ligne impactés. Mais au-delà de tout cela, transcendant le nombre de personnes qui seront là, la vision qui brûle dans mon cœur, c'est d'élever un peuple de vrais adorateurs, un peuple d'hommes et de femmes qui vont être des disciples du Seigneur Jésus-Christ et qui vont l'honorer, vont l'adorer et vont donner plaisir à son cœur. Voulez-vous dire un grand amen ce matin? Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. J'ai été percuté puissamment par cette révélation de Jésus, non seulement à la Samaritaine, mais à toi et moi. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. L'adoration biblique n'est pas à choix multiple. Ce n'est pas à choix multiple. Ce n'est pas un style de worship que j'aime, un style musical. Comment on l'a toujours fait dans notre église. Ce n'est pas notre culture d'église, une culture chrétienne ou religieuse. Ce n'est pas un genre, ce n'est pas un buffet. Ce n'est pas un « crée ton propre sandwich spirituel ». Il y a des multitudes qui adorent, mais ne connaissent pas ce que Dieu demande. Il demande que nous l'adorions en esprit et en vérité. Lorsqu'on parle d'adorer en esprit ici dans le grec, in noumati, ce n'est pas, j'ai enseigné plusieurs semaines durant l'été sur l'œuvre de l'esprit, l'action de l'esprit, l'enseignement de Jésus sur le Saint-Esprit, mais ici, il parle de l'esprit humain, il parle de l'être humain qui est corps, qui est âme et qui est esprit. Et si ton adoration est pour plaire à Dieu, elle doit impliquer, la vraie adoration implique ton esprit. Esprit qu'elle vient de l'intérieur. Il n'y a pas de, ce n'est pas dans le rituel, c'est pas dans l'habitude. Il n'y a rien de ritualisé, il n'y a rien de banal, il n'y a rien de machinal. C'est ton esprit littéralement qui est en connexion avec Dieu. Nous avons tous déjà vécu que mon corps peut être en train de louer Dieu, mon corps est en adoration, mais mon esprit est à milieu. Personne ne dit amen à la première réunion. Les gens étaient plus repentants que vous. On a tous aussi vécu c'est possible que mon âme, mes émotions, la musique, la foule, on est ensemble, mes émotions, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui aiment le worship, on est dans les émotions du worship. Mais adorer Dieu, lorsque tu entends adorateur, louange, adoration, worship, l'adoration, c'est bien sûr louer, chanter à Dieu, mais c'est infiniment plus. L'adoration, c'est comment, à quel point tu aimes Dieu, c'est comment tu obéis à Dieu, comment tu honores Dieu, comment tu appartiens à Dieu, comment tu changes pour Dieu, comment tu sers Dieu, c'est comment ta vie honore et glorifie son nom. C'est en profondeur, c'est le cœur en esprit. Et c'est en vérité, c'est la pureté de sa parole dans notre conduite. C'est en vérité. Les vrais adorateurs recherchent une cohérence, une continuité, et ils recherchent une correspondance entre ce que je chante et ce que je vis. Que mon adoration et ma vie entière qui est offerte comme un sacrifice vivant. Alors la question c'est, est-ce que je connais ce que la parole de Dieu enseigne sur les vrais adorateurs? En vérité, adorer selon la vérité de la parole. Est-ce que je veux le connaître? Depuis 9 semaines, nous l'étudions ensemble. Et ce matin, on va conclure avec quelques marques des vrais adorateurs à travers ces rencontres. L'évangile de Jean est tellement magnifique. 90% du contenu de l'évangile de Jean n'est pas trouvé dans les 3 évangiles synoptiques. C'est du contenu unique, les 7 grands miracles uniques à l'évangile de Jean, 7 grands « je suis » descriptifs de Jésus et 7 grandes rencontres marquantes de Jésus. Et là, il y a un suivi qui est important pour toi de comprendre. Lorsqu'on arrive aujourd'hui à Jean chapitre 4 avec la Samaritaine, c'est précédé. Dans Jean chapitre 3, il y a un contraste dans le positionnement. Dans Jean chapitre 3, il adresse le leader religieux d'Israël, le chef théologien Nicodème d'Israël, celui qui est honoré, celui qui est respecté, le modèle moral qui est venu à Jésus, qui vient vers lui, qui cherche Jésus. Et lorsqu'on arrive, tout de suite après, d'une rencontre à l'autre, il entre, il s'assoit sur le bord d'un puits à midi avec une femme, mais une femme samaritaine. Une femme méprisée, brisée par la vie, rejetée, oubliée, abandonnée. Une femme de mauvaise vie, selon tous les standards de l'époque, à qui Jésus révèle des poursuites qui doivent devenir tiennes et miennes. Des poursuites de cœur et de vie de ceux qui vont être devant, qui vont devenir et devenir de vrais adorateurs devant Dieu. La première marque, ensemble ce matin, les vrais adorateurs vivent leur foi dans le présent, dans le aujourd'hui. Jean chapitre 4, versets 20, 21 et 25, 26. Elle dit à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Là, il était dans le passé de ses pères, là, ça va dans l'avenir. Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Elle est complètement dans le hier et le demain. Dans le hier du passé religieux ou dans le un jour du prophétique futur. Nos pères, notre montagne, beaucoup de chrétiens, beaucoup de leaders chrétiens, beaucoup d'églises ou mouvements d'églises sont dans le hier. Mon héritage d'hier, ma montagne d'hier, ma vie chrétienne d'hier, ma conversion d'hier, mes exploits d'hier, mes accomplissements d'hier, ma générosité d'hier, ma vie de prière d'hier, ma communion d'hier. Elle a dit nos pères ont. Il y a beaucoup de jeunes, il y a des centaines et centaines de jeunes, deuxième, troisième génération ici, que il y a la foi de ton père, la foi de ta mère, la foi de tes parents, la foi de tes grands-parents. Elle était dans le hier et après, elle s'en va dans l'hyper-futur. Un jour, le Messie viendra. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera toutes choses. Demain, de la même façon, il y a tout un mouvement qui est toujours concentré sur le futur prophétique. Je sais que le Messie va venir un jour, très, très personnellement, un jour, je me donnerai vraiment à Dieu, un jour, je vais vraiment servir, un jour, une surenphase eschatologique. Il y a beaucoup de croyants qui sont accrochés à la bataille d'Armageddon, mais ont abandonné la bataille aujourd'hui. Ils sont dans Armageddon, mais c'est aujourd'hui que ça prend place, c'est maintenant. Alors, la question de l'esprit, c'est, et toi et moi, comment est ma marche avec Dieu aujourd'hui? Comment est l'état de mon cœur aujourd'hui? Comment est ma passion, ma sensibilité à lui aujourd'hui? Comment est ma recherche de sa présence aujourd'hui? Comment est ma générosité envers ceux qui souffrent aujourd'hui? Comment est mon ouverture à me repentir aujourd'hui? Comment est ma capacité à tout relâcher pour le suivre aujourd'hui même? Il y a tellement de croyants obsédés par la fin des temps, mais obsolètes dans leur foi et leur témoignage aujourd'hui. Jésus lui dit, je suis le Messie, je suis le Christ, c'est moi, c'est entre toi et moi aujourd'hui. C'est moi qui te parle. Entends cette parole pour toi aujourd'hui. Les vrais adorateurs vivent avec Jésus aujourd'hui. Qu'est-ce que je vis avec lui aujourd'hui? C'est moi qui te parle aujourd'hui. Et il lui annonce, c'est moi qui suis le Messie que tu attendais. Jean-Baptiste l'a annoncé et Jean l'annonce en Jean 1 et 2. Jean-Baptiste l'annonce. Jean l'annonce dans chapitre 3, mais c'est la première fois dans les évangiles où Jésus l'annonce lui-même. Il y a la foi et la foi d'hier. Et la fascination de demain peuvent devenir des soporifiques et des somnifères spirituels dangereux. Les couronnes de fidélité d'hier et les contes de fées de demain sont toxiques. Il y a quelques semaines, nous avons eu un camp d'ados. Et c'est tellement d'adolescents. Et c'est tellement magnifique. Ça fait deux semaines, je pense, maintenant, ou trois semaines. Et il y a toujours des témoignages qui entrent d'adolescents, 13, 14, j'en ai eu un cette semaine, 17 ans. Un jeune homme de 17 ans qui a vécu un moment aujourd'hui. C'est Dieu qui me parle. Il a grandi dans les églises. Sa famille, ses parents sont joints à l'église récemment. Il était là, première fois, dans un camp d'ados. Il était froid et distant avec Dieu. Mais dans cette réunion-là, le week-end prochain, combien croient que le cœur de Dieu prend plaisir à voir des adolescents qui s'abandonnent à Dieu, qui acceptent Jésus, qui vont suivre personnellement? Le témoignage qui a suivi m'a tellement touché. Parce que c'est les parents qui m'ont écrit avec la permission de leur garçon. Le garçon, un jeune homme et sa sœur, 17, et je pense qu'elle était un peu plus jeune. Et lorsqu'ils sont revenus du camp, lorsqu'ils sont revenus le dimanche soir, se sont assis avec leurs parents, première fois de leur vie que ça arrivait, se sont mis à raconter à leurs parents ce qu'ils avaient vécu avec Jésus. Et le papa est devenu hyper émotionnel. Il a dit à ses enfants, « Priez pour nous. Priez pour ta mère et moi. » On a déjà connu ça. On a déjà, vous entendez parler là, on a connu ça. Priez pour nous. Et quel moment hallucinant où ces jeunes ados ont imposé leurs mains à leurs parents. Je veux dire à tout le monde au son de ma voix. Les vrais adorateurs, c'est aujourd'hui. C'est maintenant. Veux-tu applaudir ce que Dieu veut faire dans ta vie aujourd'hui? Les vrais adorateurs vivent leur foi dans le présent et leur aujourd'hui. Et les vrais adorateurs, ils offrent le pardon à ceux qui ont et qui sont abandonnés. Je vais l'expliquer. Jean, chapitre 3, et les versets 3 à 7 et 9. Jean, chapitre 4, pardon, verset 3. « Alors il quitta la Judée et il retourna en Galilée, comme il fallait qu'il passe par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils, et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus était fatigué du voyage. Assis au bord du puits, c'est environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau, et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire, verset 9. » La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? » Et Jean ajoute, « Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritaines. » Avec les samaritains. La première pensée qui à chaque fois me bouleverse, c'est qu'il fallait qu'il passe par la Samarie. Ce n'était pas une obligation géographique, loin de là. Les juifs avaient une telle détestation et dédain pour les Samaritains, que tous les historiens sont unanimes que plutôt que de mettre un pied, une orteil dans le territoire des Samaritains, ils étaient prêts à faire des heures et des jours pour contourner, ne même pas. Mais Jésus, lui, vient, va parler à une femme samaritaine. Il fallait que Les vrais adorateurs sont habités d'un esprit de « il faut que ». Il faut que je rejoigne quelqu'un qui a besoin de Jésus. Il faut que. Il faut que. Les vrais adorateurs sont habités et demandent, Seigneur, renouvelle par ton esprit, renouvelle cette passion dans mon âme. Il faut que nous gagnions du terrain. Il faut que nous gagnions des âmes. Les vrais adorateurs n'ont aucune place pour on se fait du bien entre nous. Les vrais adorateurs disent, il faut que nous bâtissions l'église à Longueuil. Il faut que nous implantions et que nous développions Nouveau Vida. Il faut que nous soyons à la Prairie. Il faut que nous soyons à Nouvelle-Vie, Châteauguay. Il faut que nous soyons à Nouvelle-Vie, Romaneville. Il faut que nous soyons à Nouvelle-Vie, Charlebois. Il faut que nous soyons à Trois-Rivières et à Québec et à Montréal et en ligne. Il faut que nous soyons. Quelqu'un devrait applaudir le Dieu qui met son cœur dans le nôtre. Jésus offre le pardon à ceux qui ont abandonné. Faut que vous compreniez bien que les Samaritains étaient considérés comme des traîtres. Ils avaient abandonné à peu près 7 siècles auparavant, lorsque les royaumes se sont divisés. Ils avaient abandonné la foi des siècles auparavant. Ils avaient trahi tous leurs frères, leurs sœurs. Ils sont allés ont rétrogradé d'une manière violente, d'une manière, se sont tournés vers les idoles. Et il y a toute une nation qui les a vus les abandonner. Des croyants qui abandonnés, par tout ce segment. Puis de génération en génération sont devenus considérés comme des parias, des ennemis. Écoute-moi bien. Les vrais adorateurs sont prêts à être proches de ceux que plusieurs religieux ont en aversion. Les vrais adorateurs ont le cœur de Christ. Ils s'approchent du puits. Ils s'approchent de ceux. Ils ouvrent et tendent les bras vers ceux qui ont trahi, vers ceux qui ont abandonné, vers ceux qui nous ont fait de la peine, vers ceux qui nous ont déçus, vers ceux qui nous ont fait honte. Les vrais adorateurs ont cette patience divine pour ceux qui ont été aveuglés. Dans la salle ce matin, il y a mon ami Éric Sellerie qui est là, pasteur Éric, son épouse Muriel. C'est une des choses parmi plein d'autres. Toutes les réalisations que Dieu lui a permis d'accomplir pour le royaume de Dieu, une des choses que j'aime tellement du cœur de mon ami, c'est que c'est un homme qui a un cœur. Lorsque ce soit des frères ou des confrères ou des collègues ou des gens qui ont tout déchiré, on recule tous avec horreur de ce qui a pris place, il est celui qui est là. Il est celui, je crois, que le cœur de Jésus, les vrais adorateurs, Jésus veut nous communiquer un cœur qui n'abandonne jamais ceux qui nous ont déçus, ceux qui ont abandonné, trouvent dans nos bras ouverts le cœur du Seigneur Jésus et la foi de les rebâtir, de les restaurer. Quelqu'un devrait crier « Amen » ce matin. Le rejet des Samaritains était tellement profond que les Juifs religieux, c'était tellement ancré en eux que Jean écrit 60 ans plus tard. Jean, c'est 60 ans après les événements. Mais l'Esprit de Dieu saisit Jean, qui est devenu l'apôtre de l'amour, qui est devenu celui qui a écrit. Il a tellement aimé le monde, toutes les nations, que Jean souligne cette tendance qui était si forte à l'époque. C'est-à-dire, les Juifs, nous n'avions aucun contact avec les Samaritains, nous les religieux. Dans le grec original, lorsque vous lisez, il n'y avait aucune relation. C'est littéralement, et ils n'utilisaient pas même les mêmes ustensiles. Ne touche pas, n'entre pas en contact avec quoi que ce soit qui est Samaritain. Vous ne le réalisez pas, mais c'est totalement révolutionnaire que Jésus envoie ses disciples aller chercher de la nourriture qui va être préparée par des mains de Samaritains. C'était tellement ancré, cette amertume historique était tellement profonde que dans Néhémie, alors qu'ils sont sous attaque, lorsque les Samaritains, leurs anciens frères, les Samaritains viennent et offrent leur aide pour combattre l'ennemi, ils disent « Non, on veut pas de ton aide, même lorsqu'on est assiégé par un ennemi. » Écoute-moi, les vrais adorateurs, remplis du cœur de l'Esprit de Christ, vont offrir le pardon et la grâce absolue, inconditionnelle et totale. Et alors qu'on sort de cette pandémie et que des multitudes reviennent vers les églises, il y a une seule chose qui vont les accueillir à Nouvelle-Vie, les bras ouverts de Jésus à la croix. On a les bras ouverts. Viens, reviens à la maison. On est là pour te rebâtir. Quelqu'un devrait dire oui. Ils offrent le pardon non seulement à ceux qui ont abandonné et qui reviennent, mais à ceux qui sont abandonnés. C'est tellement magnifique. C'est tellement magnifique, c'est tellement puissant lorsqu'on découvre Jésus, redécouvre Jésus dans les évangiles, parce que l'on le voit dans toute son humanité à tellement de reprises. Ici, on le voit même dans son humanité, il est épuisé. Dans sa fatigue physique, il est midi, il a marché 20 kilomètres sous un soleil de plomb, kospiao en grec. Il est épuisé, il est fatigué. Toute son humanité, toute sa capacité de souffrir avec ceux qui souffrent, de s'identifier et s'incarner dans l'expérience humaine. Mais nous le voyons aussi dans toute sa divinité. son pardon, sa grâce infinie, son appel à ceux qui sont sérieux de se nommer chrétiens. Il donne ce modèle. Les vrais adorateurs, comme Jésus. La semaine dernière, on a bien expliqué cette portion. Mais la femme qui est devant lui a été mariée 5 fois. Elle est avec un 6e homme. Il connaît tout d'elle. Il connaît tout d'elle. Il connaît chaque horreur, chaque détail sordide de son passé, de son présent. Tout ce qui lui a fait honte à cette femme. Tout ce qui la dévore et la détruit. Les 5 divorces, les 5 promesses brisées, les 5 abandons, la trahison à répétition. Il connaît tout ça, mais il lui offre le don de la vie. Il lui offre le pardon. Il lui offre la grâce pour ceux qui sont abandonnés. Elle est tellement rejetée qu'elle vient à midi pour boire, pour aller puiser de l'eau. Toutes les femmes venaient puiser de l'eau à l'aurore. Non, pas sous le soleil de plomb à midi, mais elle vient furtivement à midi parce qu'elle est rejetée, méprisée, même par ceux qui l'entourent. Il y a plusieurs commentateurs qui nous disent même, qui ont étudié le texte au niveau géographique, et plusieurs historiens et théologiens soulignent le fait que le puits de Jacob était loin de Sychar, d'où elle venait, qu'il y avait plusieurs autres puits beaucoup plus près. Mais elle va, on peut l'imaginer, sortant de la ville, elle est abandonnée. Il n'y a personne qui pense à moi. Il n'y a personne qui est là pour moi. Je ne compte pour personne. Je vous pose une question. Quelle est notre place? Où retrouve-t-on les vrais adorateurs? Quelle est notre place? Où est-ce qu'on retrouve les vrais adorateurs? On va les retrouver à l'église. Amen. On va les retrouver dans la parole de Dieu, oui. On va les retrouver dans une étude biblique, oui. On va les retrouver dans un concert de worship, oui. On va les retrouver en ligne à télécharger du worship et être béni des enseignements et l'éducation, oui. On va les retrouver en Zoom dans un groupe Nouvelle Vie, oui. Mais on va aussi les retrouver dans un entrepôt de l'organisme Action Nouvelle Vie en train de préparer des paniers alimentaires pour 15 000 personnes par mois. On va les retrouver dans un territoire autochtone en train d'aider les enfants, les plus pauvres du monde, au bord du puits avec la Samaritaine. Où on va? Où retrouve-t-on les vrais adorateurs? On les retrouve en train de soutenir, en Ukraine, en train de soutenir et de sauver des vies. On les retrouve dans une résidence, dans des résidences de Longueuil pour femmes battues, alors qu'on va aider et soutenir. On les retrouve au 2159, l'adresse 2159, Chemin Chambly, à Longueuil, où l'espoir a trouvé une adresse pour des jeunes filles aux prises avec la prostitution. Quelqu'un devrait dire oui. Cette semaine, j'avais une rencontre avec la directrice du 2159, qui est le volet jeunesse de l'organisme Action Nouvelle Vie que nous soutenons. On la voit ici avec quelques-unes de ses intervenantes, des hommes et des garçons intervenants aussi. J'étais avec Sonia Hospitalier, on avait un moment de partage ensemble, et au milieu de la rencontre, on avait larmes aux yeux. Lorsqu'elle me parle des 16 jeunes qui habitent, qui sont là dans un programme au 21, mais maintenant aussi, depuis plus d'une année, nous avons une chambre dédiée spéciale, une chambre d'urgence. Tous les jeunes qui sont là sont des Samaritains et Samaritaines. Tous les jeunes qui sont là ont été violentés, ont été dans le crime, ont été victimes de tout ce qui peut prendre place dans le milieu de la prostitution, des proxénètes, des jeunes filles. Mais la chambre d'urgence est aussi, et régulièrement, les policiers viennent porter, les centres de jeunesse viennent porter des jeunes filles. Arrivent à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, avec des jeunes filles qui se sauvent d'un proxénète qui vient de l'enfermer dans un hôtel pendant des jours et des jours. Laissez-moi vous dire, les vrais adorateurs sont là avec des bras ouverts. Ils sont pas seulement dans l'église en train de louer. Ils sont là où il y a des gens qui ont mal. Ils sont là où il y a un puits, une Samaritaine dont personne ne veut. Les vrais adorateurs présentent la vie abondante à laquelle seul Jésus donne accès. On continue la conversation au verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu qui est celui, et ce qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, il y a de la moquerie, il y a de la moquerie du mépris là-dedans. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où tirais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Quel va être notre message? Qu'est-ce que nous allons présenter à ce monde? Qu'est-ce que tu vas présenter comme chrétien? Qu'est-ce que nous allons présenter à nos amis, à nos collègues? Qu'est-ce que nous allons présenter à nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur? Qu'est-ce que nous allons présenter à une société qui, dans toutes ses valeurs, semble si loin du cœur de Dieu? Sérieux? Quel va être notre message? Qu'est-ce que nous allons offrir? Qu'est-ce que nous allons présenter au monde qui nous entoure? Qu'est-ce qu'on va leur offrir en personne et en ligne? 130 000 abonnés à la chaîne Nouvelle Vie. Qu'est-ce qu'on va leur présenter? Qu'est-ce qu'on leur offre? Qu'est-ce qu'on leur présente? Qu'est-ce qu'on va leur présenter? Notre jugement? Est-ce qu'on va leur présenter nos théories du complot? Est-ce qu'on va leur présenter notre répulsion face à leurs mauvaises valeurs et modes de vie tellement antichrist? Sérieusement, qu'est-ce qu'on présente? Notre colère et notre sommation à vivre selon les lois et les principes chrétiens alors qu'ils ne sont pas chrétiens? Qu'est-ce qu'on va leur présenter? Les menacer, les sommer de voir et d'obéir à la lumière de Dieu alors qu'ils sont voilés, de hurler qu'ils doivent vivre selon la parole de Dieu alors qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu pour les conduire dans la vérité. Qu'est-ce que Jésus a répondu à cette femme qui est immorale, qui est décadente, qui est vulgaire, qui se moque de lui? Es-tu plus grand que Jacob? T'as rien pour creuser le puits. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Est-ce que Jésus a répondu, si tu connaissais à quel point ton mode de vie dégoûte Dieu? Si tu connaissais à quel point ton style de vie est contraire à... Si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui est là devant toi, tu lui demanderais à boire. Il lui a présenté sa grâce, son amour, son salut. Il lui a présenté le don de Dieu pour la vie abondante qu'il avait pour elle. Si tu connaissais le don de Dieu, les vrais adorateurs offrent le don de Dieu. Le don de Dieu, manquez pas ceci. Le don de Dieu, lorsque quelqu'un vient au Seigneur Jésus-Christ, le salut, il a présenté le Dorian, c'est le mot grec. Le don de Dieu, c'est le pardon de Dieu. Le salut gratuit. L'Esprit de Dieu qui vient transformer un être humain. Regardez bien la progression. Le don de Dieu, c'est Dieu qui donne un nouveau cœur, une nouvelle conscience, une nouvelle communion avec Dieu, qui amène une nouvelle conviction et de nouvelles compréhensions de tout ce qui fera, de ce qui est bien, de ce qui est mal, du péché, de la vie, de tous les enjeux éthiques. Je répète, le don de Dieu, c'est Dieu qui donne un nouveau cœur. Je vais enlever le cœur de pierre, j'en ai un cœur de chair. J'écrirai mes commandements par mon esprit sur votre cœur. Combien l'ont vécu? Dieu t'a donné un nouveau cœur lorsque t'es venu à lui. C'est le don de Dieu, un cœur nouveau, une conviction nouvelle, des compréhensions nouvelles, des changements qui amènent un cœur nouveau, conviction nouvelle. Un nouveau cœur, nouvelle conviction, nouvelle compréhension, nouveau changement, nouvelle conduite, nouvelle création. Un des grands dangers, c'était tellement bon ce bout-là, moi j'ai travaillé comme un fou là-dessus, puis j'ai comme eu un an et demi, merci quand même pour ma sœur là-bas. Alors je dois le répéter, le don de Dieu, c'est un nouveau cœur qui amène une nouvelle conscience, qui amène de nouvelles convictions parce que c'est une nouvelle communion avec Dieu. Nouveau cœur, nouvelle conscience, nouvelle communion, qui amène de nouveaux changements, qui amène de nouvelles compréhensions, qui amène de nouvelles conduites parce qu'on devient des nouvelles créatures. Quelqu'un devrait dire amen. L'erreur massive, et lorsque nous essayons, et lorsque nous forçons, et lorsque nous combattons pour que des gens qui n'ont pas un nouveau cœur, n'ont pas de nouvelle conscience, n'ont pas de nouvelles convictions, n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux, d'avoir les nouvelles convictions, la nouvelle conscience, la nouvelle conduite, nous sommes là pour annoncer le don de Dieu, annoncer le don de Dieu en Jésus-Christ. C'est un don, c'est ce qui différencie, distancie, c'est ce qui est en contraste absolu avec toute autre religion qui dit et qui commande, si tu fais assez de ça et de ça et de ça, peut-être que Dieu va... Le royaume de Dieu, le don de Dieu, tu peux seulement le demander et le recevoir. Tout est déjà accompli en Jésus-Christ. Tu le demandes et tu le reçois. Les vrais adorateurs qui ont présenté Jésus, offrent Jésus et la transformation que Jésus donne. Il y a quelques années, un automne, j'allais faire une convention en France et j'ai rencontré pour la première fois quelqu'un qui est devenu un ami, notre ami Yanis Gauthier. Et je prêchais la convention, puis il a donné son témoignage, puis on a connecté. J'ai dit, Yanis, il faut que tu viennes au Québec pour apporter la parole, donner ton témoignage. Et on a connecté ensemble. Et puis, quelques mois plus tard, au mois de janvier, il m'appelle. Il me dit, Pasteur Claude, justement, je viens au Québec, je vais faire des conférences dans des pénitenciers. Alors, je peux-tu venir? C'est ta troisième semaine. Est-ce que tu penses que c'est un bon moment? J'ai dit, écoute, Yannis, au Québec, j'ai dit ça, là, j'ai dit ça des mois à l'avance. Je suis vraiment prophétique. J'ai dit, au Québec, des fois, c'est difficile l'hiver parce que la température peut tout changer. Oui, mais je vais être au Québec cette date-là. Alors, j'ai dit, parfait. Donc, on te prend dimanche matin, la troisième semaine de janvier. À partir du samedi soir, une des grandes tempêtes du dernier 20 ans. Un mètre de neige. Mais je fais attention parce que les étudiants qui viennent d'arriver, qui n'ont pas connu l'hiver encore et qui ont juste vu des films et ils trouvent ça romantique, les flocons qui leur tombent sur les joues. Ça s'en vient. Alors, mais celle-là, là, c'était une vraie, là. Un mètre de neige, mais tout à coup, dans la nuit, après la neige, la glace, le grésil et tout ça. Et moi, là, ce matin-là, à 5 heures du matin, j'étais comme ça sur mon pare-brise en me disant, ça va être moi, ma femme et mon chien à l'église ce matin. Et là, je me disais, Yannis qui est ici, Yannis qui est là pour venir apporter la parole. Et pauvre lui, très français, est arrivé ici en janvier avec une espèce de petit coupe-vent léger. On l'a couvert de manteau. On a mis le manteau ballon, le manteau de fourrure. On l'a mis. Il était comme frigorifié. On l'a déglacé à la torche. J'exagère à peine. Et là, je dis, écoute, Yannis, c'est seulement, je sais pas qui va être là, etc. Et au lieu d'être deux fois 2000 personnes, ce dimanche matin-là, c'était à peu près deux fois 100, quelques personnes. On avait à peu près 200 personnes dans cette grande salle, sur deux réunions. Et Yannis qui est là, frigorifié, et qui arrive, la salle est vide, ce qui était fou, c'est que tous les chrétiens, les leaders, les pasteurs, à part moi et quelques-uns, étaient chez eux dans une doudou à boire du chocolat chaud, mais il y avait plusieurs nouveaux, non, non, pas pourquoi, il y a des nouveaux qui avaient bravé la tempête. Ce matin-là, Yannis a fait son témoignage, il a annoncé le don de Dieu, les gens ont donné leur vie au Seigneur dans les deux réunions. J'ai dit, Yannis, écoute, on va se reprendre une autre fois. Savez-vous où on est rendu avec le témoignage de Yannis Gauthier en ligne, 850 000 visionnements partout à travers la francophonie. Il a annoncé le don de Dieu. Quelqu'un devrait applaudir. Les vrais adorateurs vivent leur foi dans le présent et là aujourd'hui, offrent le pardon à ceux qui ont été abandonnés. Les vrais adorateurs présentent la vie abondante à laquelle seul Jésus donne accès. Ma dernière pensée, les vrais adorateurs trouvent une puissance quand ils se mettent en action. La narration du chapitre est simple. Après la conversation que Jésus a eue avec elle, elle part. Elle a vécu quelque chose de tellement puissant, elle s'en va dans la ville où elle était si méprisée et rejetée. Et elle dit littéralement, « Venez, j'ai rencontré celui qui sait tout de moi, mais il m'a offert le don de Dieu. Ne serait-ce pas le Christ? » Et comme un aimant divin, la ville entière se range derrière elle et alors que la ville entière vient vers lui, les disciples sont allés chercher de la nourriture et on reprend le récit au verset 31. Pendant que ce temps, les disciples pressaient de manger en disant « Maître, Rabbi, mange ». Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas ». Les disciples se disaient donc les uns qu'aux autres. Quelqu'un leur a-t-il apporté à manger? Jésus leur dit « Non, mais ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jésus dit, il y a une force, c'est un des secrets, approche-toi, c'est un des secrets du royaume de Dieu. Qu'il y a une force, il y a une nourriture. Jésus dit, j'ai une nourriture surnaturelle que vous ne connaissez pas, ou que vous avez oubliée, ou que mon corps, mon Église a négligé, méprisé ou remplacé. Mais il y a une nourriture spirituelle. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, du Père qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Il y a une force, c'est un secret du royaume. Pour une église, pour toi, pour moi, il y a une force, il y a une vitalité, il y a un renouvellement, il y a une joie, il y a une capacité de traverser les offenses et les tragédies, il y a une capacité de pardonner, il y a un flot de la vie de Dieu. Il y a, mon âme est nourrie, mon cœur est nourri, mon esprit est nourri, ma foi est nourrie lorsque je prends ma place, lorsque je prends ma part dans l'accomplissement du royaume de Dieu et du rêve de Dieu. Lorsque je le sers, il y a quelque chose de surnaturel qui prend place et j'entends quelqu'un dire, bon, ben, c'est peut-être, là, pasteur Claude, ça doit être, ça se peut, là, comme Jésus, là, les pasteurs, toi, là, Éric Sellerier, les autres, là, les pasteurs, les prédicateurs, quand vous prêchez, vous faites l'œuvre de Dieu, puis ça vous donne une force, là, à vous, là, c'est super pour les prédicateurs, mais qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Bonne question, laisse Jésus y répondre. Verset 35, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent. Lorsqu'il dit ça, c'est que la multitude monte du village, la multitude de gens brisés, aussi brisés qu'elle, aussi loin de Dieu qu'elle, aussi incompris, aussi perdu. Et ils montent, et ils montent. Et Jésus regarde, regarde la moisson qui monte, qui est blanche. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Il y a une force, il y a un salaire, il y a une bénédiction éternelle future, mais présente. Amasse des fruits pour la vie éternelle afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Et ceci, ce qu'on dit est vrai. Un sème et l'autre moissonne. Je vous ai même envoyé où vous n'avez pas travaillé et d'autres ont travaillé et vous êtes entrés. Il y a des multitudes ici à Nouvelle-Vie que vous êtes entrés où d'autres ont servi. Et maintenant, d'autres ont donné, d'autres ont prié, d'autres ont jeûné, d'autres ont servi. Et maintenant, Dieu t'appelle toi à entrer. Et elle est saisie. Le peuple de Dieu trouve sa puissance quand il se met en action. La moisson est blanche. Les Samaritains montaient vers lui. C'est un grand secret du royaume. Montre-moi quelqu'un. Montre-moi un croyant, une église, un mouvement d'église, un leadership chrétien qui est endurci, qui est refroidi, qui est axé sur le conflit, sur les débats et sur les déchirements et qui est sans joie, et sans effervescence, et sans flot, sans huile, sans onction. Et je te montrerai quelqu'un qui a perdu son cœur pour les gens, pour les âmes. Et montre-moi quelqu'un qui, quel que soit, c'est pas parce qu'il est exempt. Il traverse la maladie, il traverse les épreuves, il traverse les blessures, il traverse les offenses. Il sert année après année. Montre-moi quelqu'un qui t'inspire, qui garde une joie, qui marche avec foi, qui a toujours une vision, qui a toujours il faut que, qui a toujours dans chaque saison de sa vie quelque chose de frais. Son âme est nourrie. Il y a une nourriture secrète que lui seul semble connaître. Non, c'est pas lui seul. C'est le corps de Christ entier. Montre-moi quelqu'un qui marche, nourri et avançant avec force. Je te montrerai quelqu'un qui sert le royaume de Dieu, qui se donne à l'avancement du royaume de Dieu. Il sert, il prie, il est dans le stationnement, il est placeur, il accueille, il est à la technique, il est avec les enfants, il est dans un groupe Zoom. Quelle que soit sa mesure, il sert Dieu, il accomplit, il prend sa part et la nourriture de Dieu remplit son âme. Quelqu'un devrait dire un amen alors qu'on arrive à la fin du message. Les vrais adorateurs sont habités par la réalisation que nous sommes là aujourd'hui parce que d'autres ont semé. Les vrais adorateurs ne disent pas « il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ». C'est maintenant. Les vrais adorateurs vivent leur foi aujourd'hui, quel que soit leur âge. J'invite les musiciens à s'approcher. Demain, priez pour moi. Demain, je quitte pour, je vais être là dimanche prochain, mais demain, je quitte pour aller à New York, prêcher à Times Square Church mardi soir, par la suite, mercredi matin, je m'en vais au Colorado pour siéger sur, je suis sur le conseil d'administration de World Challenge, l'organisation qui a été fondée par David Wilkerson, on y a avec ce micro aussi. Et je vais arriver mardi soir et j'ai hâte à ce CA, même si c'est une semaine très, très éreintante. Je vais revenir jeudi soir tard pour être ici vendredi le week-end prochain. Mais lorsque j'ai commencé à siéger sur ce CA, c'est un grand honneur, j'ai rencontré le président du CA. Il s'appelle Barry McGuire. Et Barry a maintenant 82 ans. Il y a une photo qui va apparaître de moi et de Barry avec son épouse. C'est un monsieur de 82 ans maintenant. Et si vous êtes familier, plusieurs d'entre vous, avec, si vous êtes familier avec McGuire Wax, c'est des produits, des cires et des produits pour l'entretien des véhicules automobiles, pour les voitures. Et c'est une entreprise qui est à la bourse. Qui distribue des produits à des manufactures dans plusieurs pays en Europe, à plusieurs pays, plusieurs États américains. Et lorsque Barry, c'est un homme d'affaires qui est de grand succès, il a accumulé son premier 10 millions, je parle de gains personnels, son premier 10 millions à l'âge de 30 ans. Dites à la personne près de vous, je suis un petit peu en retard, dites ça à quelqu'un près de vous. À 40 ans, il avait accumulé une fortune personnelle de 25 millions, plus ses actions, plus tout le reste. Mais à 40 ans, avec 25 millions, 5 résidences à travers le monde et 40 voitures, c'est un maniaque de voitures. Il était suicidaire. Il était accro à plein de médicaments. Il avait une vision. Il avait connu seulement... il avait connu, il était enfant, des milieux religieux. Où il avait été vécu un certain abus, mais aussi où il avait vu tellement d'hypocrisie et tellement de... Il y avait une espèce d'aversion farouche pour tout ce qui est religieux, chrétien.
Les gens ont horreur des faux adorateurs. Les gens sont capables de les sentir. Et Barry, à 42 ans, son épouse l'a quitté pour un certain temps parce qu'elle avait peur. Elle avait peur qu'il se suicide, elle avait peur qu'il devenait violent. Et un de ses amis, chrétien qui priait pour lui depuis des années, l'a invité. Et un soir, l'a invité à une réunion où le pasteur David Wilkerson a porté la parole. Et Barry McGuire a avancé, a donné sa vie au Seigneur à 42 ans. Et ce que la Bible dit, qui prend place, a pris place. Il a reçu le don de Dieu, un nouveau cœur, une nouvelle conscience, une nouvelle conviction, une nouvelle capacité, une nouvelle communion avec Dieu, une nouvelle compréhension du royaume de Dieu et de nouvelles conquêtes et de nouvelles couronnes. Il n'est pas devenu un pasteur, il est demeuré dans les affaires. Mais c'est un homme qui a un cœur, depuis maintenant plus de 42 ans, un cœur pour Dieu absolument hallucinant. Il y a une trentaine d'années, ou quelques années après sa conversion, pendant plus de 25 ans, c'est lui qui finançait des écoles, des orphelinats, partout à travers le monde, mais aussi à dire à David Wilkerson, si tu veux aller faire des conférences de pasteurs dans les pays où personne ne veut aller, dans les pays derrière le rideau de fer, dans les pays africains les plus difficiles, je vais financer la conférence au complet. Allez-y là-bas. Et moi, j'ai eu le privilège d'apporter la parole avec David Wilkerson dans des dizaines de... J'ai fait 55 pays maintenant. Mais avec David, au moins dans une trentaine de pays, où c'était, pendant qu'on était là-bas, des centaines de pasteurs et après des œuvres humanitaires qui en découlaient. Et Barry avait son entreprise, puis disait à David Wilkerson, on va le faire pour une autre année, on verra après comment ça va. Puis il l'a fait pendant 25 ans parce qu'il disait à la fin de l'année, j'ai jamais été aussi béni que cette année. Quand je bénis l'œuvre de Dieu, je suis tellement béni, on va le faire une autre année. Il l'a fait comme ça pendant 25 ans. Et maintenant, il n'arrête jamais de donner son témoignage, de servir. Et c'est l'homme le plus joyeux, heureux, rayonnant. Lui, son épouse, ils sont extraordinaires. Et c'est aussi l'homme le plus inépuisable. En québécois, on lui dirait « Qu'est-ce que tu manges, Barry, pour être fort de même à 82? Quelle est ta nourriture? » Ma nourriture, c'est de faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer cette semaine, c'est le CA, mais la dernière fois, c'est un roulement. Les meetings sont longs, là. C'est des 7-8 heures de meetings toute la journée. Mais c'est entre les meetings que ça se passe. Parce que la dernière fois, après une longue journée, on s'en va et on arrive au resto. Et Barry est rayonnant, he's beaming. Et il y a une jeune serveuse qui arrive. Et c'est un monsieur de 82 ans, très conservateur, c'est quand même un monsieur de 82 ans. Et la serveuse qui arrive ce jour-là, je la regarde arriver, elle avait tout le kit. Elle était genre glauque, punk, gothique, avec des anneaux et des piercings à toutes sortes de places que tu peux pas imaginer qui peut être percé. Elle avait des piercings partout. Elle avait un t-shirt qui disait genre FU avec du sang qui giclait puis tout. Puis c'était une mauvaise journée. Elle est arrivée puis et tu peux dire un monsieur 90 ans tout ce qu'elle représente là, c'est une Samaritaine sur le bord du puits. Mais Barry est complètement sur une autre planète. Il y a 82 ans, on est tous aux États-Unis. Elle arrive puis dit, so how you doing, honey? Faites pas ça au Québec là. Comment vas-tu, chérie? Faites pas ça au resto après-midi. Mais so how you doing, honey? I'm a Christian. I believe in God. Can I pray for you? Y a-t-il quelque chose que je pourrais prier? Moi je suis là, je regarde mon menu. Je veux juste du poulet, moi. Juste un. Can I pray for you? Ben, ma mère est super malade. My mom's sick. I don't know what to do. Je pense à ça tout le temps. J'ai parti ce matin, j'en laisse tout seul. Il n'y a pas de résidence pour elle. Ma mère est malade. Oh, honey, can we pray for you right now? Oui, oui, priez pour moi. On prie avec elle, on est en plein resto. On prie avec elle, toute la table ensemble. Et à la fin de la prière, écoute, là, on prie pour toi. Puis je vais regarder ce que je peux faire. Peut-être que je peux t'aider aussi. Mais je connais des gens qui ont des chaînes de résidence pour personne. Ils connaissent tout le monde. Mais il dit, moi, je vais m'en aller. Mais est-ce que tu voudrais donner ta vie au Seigneur Jésus maintenant? Parce que lui, il sera avec toi tous les jours. Il dit, tu sais, tout le monde, on a tous péché, on a tous. Elle dit, she says, I know. Elle dit, I'm a mess. Elle dit, j'ai tout fait ce qu'il ne faut pas faire. Mais tu veux-tu qu'on prie avec toi? Et de cette manière-là, naturellement, surnaturel. Puis après, c'est « OK, let's eat ». Et le lendemain matin, on s'en allait à l'aéroport. Il est 5h15, je descends dans le lobby. Moi, je suis coma. J'ai 12 heures de voyagement devant moi. J'arrive dans le lobby. Il y a 82. Il est là avant moi. Puis il est assis avec le concierge de l'hôtel. Il est assis avec le concierge et sa femme. Je sais pas à quelle heure il s'est couché. Je sais pas à quelle heure il s'est levé. Je sais pas si Barry dort. Mais Mais il est avec elle, et avec eux, puis il tient la main, puis il prie, lui, sa dame, il prie avec eux. Et à chaque fois que je suis en contact avec cet homme, il y a quelque chose qui monte en moi. Seigneur, je veux être un vrai. Laisse faire que tu sois pasteur, ou que tu sois homme d'affaires, ou que tu sois étudiant, ou quel que soit ce que tu fais, je veux être un vrai adorateur. Je veux servir ton royaume. Je veux m'offrir à toi. Je veux avoir ton cœur. Est-ce qu'on peut se lever ensemble dans la présence de Dieu? Penchez la tête un instant avant que le tourbillon de la vie vous reprenne. Est-ce qu'on peut s'offrir? C'est vraiment un moment, c'est le dernier dimanche de l'été. On a congé pour beaucoup d'entre vous demain. La semaine prochaine, tout le monde revient des vacances. Mais ce matin, il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi. Si vous êtes ici ce matin, je vais simplement vous demander si cet appel-là est pour toi. Tu vas juste tendre tes mains, t'offrir à Dieu. Si tu es ici ce matin et tu dis, Seigneur, je veux être un vrai adorateur. Je veux vivre ma foi aujourd'hui. J'ai vécu des choses hier. Il y a des choses dans mon passé. Il y a des choses que j'espérais pour le futur, comme même la parole que Dieu a donnée à Mylène ce matin. Mais moi, je suis ici aujourd'hui. Alors, je tends mes mains vers toi et je veux m'offrir à toi. Porte-toi à travers ce lieu, vois nos cœurs, Seigneur. Seigneur, je m'étais éloigné. J'avais abandonné. Mais je reviens à toi dans tes bras d'amour aujourd'hui. Lève tes mains, viens à lui. Seigneur, j'ai été abandonné. J'ai vécu le rejet, j'ai vécu la trahison, j'ai vécu d'être trompé, j'ai vécu d'être déçu. Mais ce matin, je viens à toi, la source de vie. La femme a dit, es-tu plus grand que Jacob qui a creusé ce puits? Oui, tous les puits humains vont nous décevoir. Mais lui, il est la source de vie qui ne te décevra jamais. Alors, tu t'abandonnes à lui ce matin. Et est-ce que tu es prêt à oser prier avec moi? Parce que moi, c'est ce que je prie maintenant. Seigneur, donne-moi ton cœur. Partout à travers celui des hommes de tous les âges, tous les milieux des affaires, les étudiants, les mamans, les papas, tout le monde partout, toutes les générations tendant leurs mains vers Dieu et disant, Seigneur, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur pour les âmes. Donne-moi ton cœur pour la femme samaritaine sur le bord du puits. Donne-moi, Seigneur, ton cœur et ta passion pour la moisson. Que je ne dise plus dans 4 mois, peut-être plus tard. Maintenant, je vais te servir. Maintenant, je vais m'offrir. Seigneur, nous voulons par-dessus tout être des adorateurs qui amènent du plaisir à ton cœur et qui proclament à ce monde ta grandeur, notre Dieu. Combien Dieu est grand. Alors, tends tes mains avec moi. Commence à parler à ton Dieu. Et nous allons déclarer ensemble combien Dieu est grand. Il est grand pour ta situation. Il est grand pour ce que tu traverses. Mais il est grand aussi pour se servir de toi, se servir de moi de la plus grande façon pour sa grande œuvre dans le nom de Jésus. Que les vrais adorateurs le chantent et le déclarent ce matin.